Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous tous les jours en direct jusqu'à midi. Alors ce matin Mélanie, quel sera notre grand dossier du jour?
Alors aujourd'hui on va se poser la question suivante, une question qui va vous plaire Julia. Faut-il être organisé pour être heureux? Je sais que pour vous c'est une évidence, et mais comme c'est pas inné pour tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à se simplifier la vie. Comment trier, ranger, se recentrer dans sa vie perso comme professionnelle. Pour en parler, nous avons invité ce matin une experte, Laurence Enfalt, sera avec nous. Elle est psychologue et fondatrice de Jara, première agence de coaching en organisation personnelle.
Ensuite, Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Il y aura d'abord Vincent Busset, notre spécialiste déco. Il va tamiser l'ambiance dans ce studio puisqu'il va nous présenter les nouveautés dans le secteur de la bougie ce matin. Et puis, pour finir ce tour de table, Anouk Gardier, notre coach sportif, va nous rejoindre. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'électrostimulation. Et vous l'entendrez, c'est vraiment pas un truc de feignasse. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Pendant une heure, on va comme tous les jours tenter de vous faire du bien, tout particulièrement si vous êtes un peu bordélique, que ce soit dans votre tête ou chez vous. Notre question du jour, la voici, faut-il être organisé pour être heureux?
Mais l'organisation, mais c'est la vie, quand tout est à sa place, on gagne en légèreté dans tous les aspects du quotidien. Et avec notre invité, dans un tout petit instant, on va vous donner la méthode pour simplifier tout, vos relations, vos objectifs et vos attentes. On va vous rendre la vie plus douce, mais on va d'abord se tourner vers un mec hyper organisé, c'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Organisé pour être heureux, ça pourrait être le titre du prochain livre de Julia, je pense. L'organisation est tout un art. Alors j'ai demandé aux Français de se mettre une note de 0 à 10. Vous êtes comment vous en organisation?
Je dirais 8. Bah écoutez, c'est obligatoirement concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est jongler avec des horaires, des disponibilités et un temps pour chacun.
Ah oui, nous on fait des to-do list, on est très organisés. Les repas, les devoirs, les choses à faire.
Bon là je suis tombé sur les professionnels,
ouais,
le mot to-do list.
Vous êtes comment, savoir.
Je m'organise à ma façon, ouais. Je me mets un petit 6 sur 10, je suis très bien organisé mais il faut arriver à me suivre.
D'accord.
Je ne fais pas partie des bons élèves, parce qu'il y a eu les bons élèves, hein. J'en ai croisé dans la rue. Les très bons, j'ai même trouvé des élèves qui se la racontent un peu.
Bah pour le coup plutôt oui, même peut-être trop organisé pour ma part.
Je suis trop organisé. Voilà, bon, il y a les moyens, je fais partie des moyens comme ouais. Cela moi.
Je vais être gentille, je vais donner 5. C'est-à-dire que je vais vraiment ranger par exemple chez moi mais le week-end, la semaine après les vêtements ils s'empilent et tout.
Alors oui et non, sur certaines choses je suis organisée, sur d'autres pas vraiment. En fait j'ai l'impression que des fois les journées sont trop courtes.
Les journées sont trop courtes, c'est ça. C'est l'excuse des moyens comme moi, de se dire non mais c'est la journée est trop courte, j'ai pas le temps et puis il y a carrément les cancres.
Mais je crois même au-dessous du zéro. C'est... Non, mais c'est vrai, mais c'est pathologique. Un stress énorme. Après, je me tape des stress énormes. Que ce soit dans le boulot, voyage, tout.
Pas du tout. Je vis au jour le jour. Ma chambre, c'est un bordel.
Vous savez voilà. Quoi, moi, j'étais pas organisée. Puis un jour, j'ai rencontré Julia.
Oh, c'est beau ce que vous dites, Mélanie. Et depuis, vous êtes heureuse
mieux.
Ou pas
oui. Mieux.
Vous êtes passée de 0 à 10. Voilà, c'est fabuleux.
Presque. Est-ce que vous êtes heureuse?
Très heureuse.
Ah bah justement, je vous quitte avec les nouveaux bons élèves, justement. Ils sont très organisés, mais sur quoi alors?
Pas de question en fait. J'allais dire l'organisation de mes vacances, mais oui, les soirées, les sorties, mes sorties personnelles.
Les sorties personnelles en fait. Même faire la fête, en fait, ça nécessite une certaine organisation.
Mais c'est parce que c'est plus simple de s'organiser quand on a envie de faire les choses. Et
c'est,
voilà,
c'est peut-être le secret, justement. Cette émission est là pour nous donner toutes les clés de l'organisation et du bonheur.
Merci beaucoup, Clément, pour ce petit reportage. Maintenant qu'on est bien dans le thème, on va détailler les choses avec notre invité. Bonjour, Laurence Enfalt.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et coach en organisation personnelle avec votre agence Jara. Vous êtes également la co-autrice du livre « Se simplifier la vie » aux éditions Erol. Alors, Laurence, votre agence d'organisation, je reviens là-dessus, agence d'organisation personnelle Jara, elle propose quoi concrètement? Vous ne savez même pas que ça existait ce type d'agence.
Alors ça propose des conseils d'organisation personnelle pour la vie privée et pour la vie professionnelle, pour toutes les personnes qui ont besoin de s'organiser.
C'est qui sont vos clients? Vous aidez qui par exemple, pour nous donner une petite idée?
Alors je peux aider aussi bien une mère de famille qu'un célibataire dans son appartement de 30 mètres carrés. Enfin, il y a toutes sortes de personnes, beaucoup plus larges que ce que je pensais à la base.
Ouais. Et donc, il y a une vraie demande, hein, des gens qui ont du mal à s'organiser, je ne pensais même pas.
Alors oui, il y a des gens qui ont du mal à s'organiser, il y a des gens qui sont objectivement débordés.
Mais est-ce que vous croyez justement que c'est pour ça? Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à gérer de nos jours, des vies professionnelles, des vies personnelles parfois très remplies, des familles recomposées, des plannings en veux-tu, en voilà.
Ça s'en vécu, là, tout ce
mais
que
oui,
vous dites.
Mais oui, bien sûr, mais il y a tellement de gens qui ont tous ces trucs à gérer. Est-ce qu'on se sent tous débordés? C'est pour ça qu'on a besoin d'être organisés?
Oui, la plupart des gens que je rencontre, en tout cas, se sentent débordés. Côté professionnel, c'est souvent parce qu'il y a des réductions d'effectifs, donc la charge de travail augmente. Et côté privé, on a... Alors d'une part, des injonctions à être parfaite, à tout faire bien. Mmh. Et effectivement, dès qu'on a une vie riche, on va dire, forcément, on a besoin de s'organiser.
Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont quand même dépassés par les événements, même s'ils n'ont pas forcément une vie bien remplie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc aussi qui a un peu de rapport avec le caractère, peut-être, et la façon d'être,
oui,
non?
C'est vrai, oui. Et puis il y a des gens qui aiment l'improvisation en permanence. Ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir, ça les stimule intellectuellement. Et il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent être bien préparés. Pour.
Vous n'avez pas observé, vous, en tant que psy, que parfois, moins on a de trucs à faire, plus on est débordé aussi?
Il faudrait poser la question à des retraités.
Non, mais c'est vrai, souvent.
C'est ce que me disent les retraités.
C'est vrai.
Ils me disent, on a arrêté de travailler, mais on est sous l'eau.
Ouais, c'est ça. Et la crise sanitaire dans tout ça, vous pensez que ça a changé quelque chose? Est-ce que les gens ont voulu davantage se recentrer? Est-ce que vous avez pu observer un changement ces deux dernières années?
Oui, un changement très net. Parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une réelle imbrication entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'il fallait s'organiser entre « je garde les enfants, mais en même temps, je suis en visioconférence ». Donc, il y a eu tout un tas de préoccupations autour de comment on se sépare les tâches familiales, les tâches domestiques, etc. Comment on s'organise
On avait fait un grand contrat familial qu'on n'a absolument jamais tenu, mais
c'était
on avait fait des grandes règles
au
début du premier confinement, mais ça n'a pas été très suivi. Julia, je me demandais, est-ce que c'est inné ou pas d'être organisée? Vous étiez très organisée même enfant?
Oui, je crois, je rangeais déjà mes cartes de Barbie et tout au cordeau.
Dans l'ordre.
Ouais, dans l'ordre évidemment.
Donc c'est inné, on peut dire ça ou pas?
Alors, non, justement. Moi, je trouve que l'organisation, ça s'apprend. C'est un peu mon cœur de métier, donc ça s'apprend. On peut naître un peu bordélique et devenir organisé, soit par la force des choses, parce que pas le choix, soit parce qu'on a envie de se sentir moins stressé.
Et pour assurer nos auditeurs les plus bordéliques et procrastinateurs pour certains, on peut devenir organisé même quand on part de très très loin. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre?
Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Ça s'apprend. C'est des techniques à mettre en place et des habitudes à mettre un peu de côté.
Mmh. Même ces retraités dont vous parliez tout à l'heure qui se disent sous l'eau complètement, il n'est jamais trop tard, même à la retraite par exemple, pour devenir organisé?
Non, c'est même un bon moment en fait. Pour mettre de l'ordre,
un peu plus de temps.
Et on a un peu plus de temps et on se recentre sur l'essentiel souvent à ce moment-là.
Eh bien merci Laurence, vous restez évidemment avec nous. On vous dit tout ce matin sur les secrets de l'organisation. On va vous détailler la méthode de notre invité qui s'adresse vraiment à tous, vous l'avez compris. On va voir quelques astuces et démarches très simples. On peut vraiment se simplifier la vie avec tout ça. Alors comment se recentrer, trier, ranger, désencombrer votre tête et votre espace? Tout ça, ce sera dans quelques minutes. En attendant, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Faut-il être organisé pour être heureux? N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous souhaitez témoigner ou nous poser une question au 3921, notre répondeur, ou via nos réseaux sociaux. Alors, pour nous aider à améliorer notre organisation personnelle, et j'ai toujours avec nous en studio Laurence Enfalt, psychologue et coach en organisation personnelle avec son agence Jara. Elle est également la co-auteure du livre « Se simplifier la vie » aux éditions Erol. Alors dans votre livre, vous recommandez déjà de commencer par ranger et trier sa maison. Alors pourquoi il faut commencer par cette étape?
Parce que c'est concret et ça nous permet de nous poser les bonnes questions par rapport à ce qui nous environne, à ce qui est le plus proche de nous. Moi, je conseille souvent de commencer par l'armoire à pharmacie.
Ah, j'adore.
Parce qu'il y a des... La réaction de Julia. Parce qu'il y a des dates, donc on ne peut pas se tromper, la décision est facile.
Ça, je le fais de temps en temps, moi, franchement.
Ouais, voilà. Et en plus, on peut se sentir un peu coupable si jamais on soigne nos proches avec des médicaments périmés. Donc, je propose aux gens qui ne savent pas par quoi commencer, de commencer par ça.
C'est un petit truc, quoi, une petite boîte.
Et puis, c'est objectif. On est dans les dates ou pas.
Et donc... puis, c'est marrant de chercher la date. Et quand vous la trouvez, c'est comme quand vous enlevez une chaussure qui fait mal. C'est « Ah, génial, j'ai trouvé la date
ouais, !» Bon, ça ne fait pas ça à ce point-là. mais...
c'est bien. Par contre, on peut se prendre une petite photo avant-après. avant que j'ai fait le tri, après que j'ai fait le tri et constaté qu'on a beaucoup plus de place dans la maison que ce qu'on pense.
Et puis on y voit plus clair. Alors, est-ce que ranger, classer, organiser, ça fait du bien à la tête et au moral? La réponse est oui, mais je crois même que cela influe sur nos capacités mentales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, je me prends souvent l'exemple du désordre. Quand on est dans un environnement très désordonné, c'est comme si on avait en permanence un enfant de 3 ans à peu près autour de nous qui tournerait en criant « je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons ». Donc pendant quelques instants, on arriverait à rester concentré sur ce qu'on fait. Mais en fait, on serait sans arrêt perturbé. Il y aurait une partie de notre cerveau qui serait tout le temps concentrée sur ce bruit-là, ces interruptions-là. Donc en fait, le désordre.
Et les gens bordéliques sont des gens juste qui aiment bien les enfants qui crient.
Oui.
Non, mais ils ont un petit enfant
qui
crie.
J'aime mon bordel organisé, c'est le fameux truc. Ils ont l'air heureux pourtant.
Oui, mais en réalité, le bordel, comme vous dites, vous attire votre attention sans arrêt, sans arrêt. Mmh. Ça fatigue, ça stresse.
Ça crève.
Ce que disait une personne
du micro trottoir. Vous dites aussi, alors ça c'est plus étonnant, que c'est bon pour nos relations amoureuses. Alors comment ça?
Alors, imaginez que vous viviez avec quelqu'un qui soit un vrai procrastinateur et pas moyen pour lui de poser ses dates de congé. Donc, comment vous faites pour réserver pour vos vacances? Donc, vous réservez au dernier moment, donc quelque chose qui est cher, qui est moche, et les vacances sont ratées.
Ah, c'est vrai.
Ce genre de truc, c'est des irritants en permanence.
Mmh. Quand on pense organisation, on imagine tout de suite, parce que j'ai un bon exemple à côté de moi tous les jours dans ce studio, mais des agendas, des plannings, des calendriers, des couleurs, des post-it, ce sont vraiment des outils utiles, vous croyez?
Alors l'agenda, il est indispensable.
Même si l'électronique, c'est pareil?
Ah, c'est pareil, peu importe que ce soit papier ou électronique. Par contre, il faut choisir l'outil avec lequel vous vous sentez bien. Si vous êtes tout papier, vous êtes papier. On n'est pas obligé de se mettre au smartphone pour gérer son temps.
Et les to-do list, vous aimez bien aussi?
Je suis une fan des to-do list. Mais il y a to-do list et to-do list. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je vous explique comment on fait bonne to-do list.
Ah, mais on peut y aller maintenant. Moi, ça m'intéresse, la to-do list.
C'est idéal. Ça veut dire, on précise pour ceux qui sont pas anglophones quand même, to-do list, c'est la liste des choses à faire.
Exactement. Donc la plupart des gens font des listes avec juste des mots-clés. Mmh. Par exemple, déclaration d'impôt. C'est de saison. Voilà.
Et en fait, c'est vrai, il faut la faire.
J'ai oublié.
Vous n'avez pas fait?
Ben non, vous avez fait déjà.
Évidemment. J'ai bien fait de venir.
Merci. Il y a quelque chose que vous dites aussi dans le livre, c'est que pour être sûr de faire quelque chose, il faut programmer aussi du temps pour soi. Car c'est souvent la première chose qu'on sacrifie quand on n'est pas organisé. C'est quelque chose que vous recommandez, hein, il me semble.
Ah oui, complètement. Si vous aimez la Zumba, il faut absolument que ce soit marqué sur votre agenda, comme un rendez-vous chez le médecin. Il faut que ce soit indécalable.
Exactement. Et moi, vous n'avez pas fini avec la to-do list. Ah. Alors, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que je ne mets pas simplement déclaration d'impôt. Je fais quoi alors?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver, si vous vous mettiez maintenant à faire votre déclaration d'impôt, quelle est la première chose que vous feriez? Est-ce que c'est regrouper vos reçus fiscaux, par exemple? Et bien, à ce moment-là, ce que vous devez écrire sur votre to-do list, c'est regrouper mes reçus fiscaux.
Et retrouver le code impôt.gouv aussi.
Pourquoi ça m'ennuie terriblement tout ce que vous êtes
Oui, on est très, très contentes toutes les deux.
J'ai l'impression d'être avec deux reines de l'orgueil et je suis totalement dépassée. Comment je fais pour me connecter à vous, justement? Parce que je ne sais pas que je sois désorganisée, honnêtement, mais ça me paraît, un peu ennuyeux.
C'est vrai.
Ah, mais de toute façon,
je suis assez honnête, excusez-moi.
Est-ce qu'on ne peut pas expliquer à Mélanie, Laurence, que ça lui paraît ennuyeux parce qu'elle n'en a pas encore vu les bénéfices? Est-ce qu'on pourrait peut-être parler à Mélanie des bénéfices?
Je suis en séance de psy, là.
Oui, voilà. Alors, oui, le bénéfice principal, on peut l'imaginer, c'est l'absence de stress. Parce que si dans votre tête vous avez « Oh, faut que je fasse ma déclaration d'impôt », c'est énorme, ça prend la tête. Alors que si c'est transformé en juste « Oh, faut que je regroupe mes reçus fiscaux », ça va, quoi, ça va pas me tuer, ça va me prendre 5 minutes.
Mmh. Alors on a parlé des agendas, évidemment l'agenda c'est quand même l'outil indispensable pour un bon organisateur. Mais aujourd'hui il y a même des agendas partagés. Je sais que Julia, vous partagez avec votre amoureux,
avec
votre fils.
Fils,
c'est important comme ça de partager l'agenda. Qu'est-ce que ça apporte de plus justement qu'il soit partagé, cet agenda?
Alors moi j'ai tendance à penser que ça facilite l'autonomie des uns et des autres. Et ça allège la charge mentale de celle qui gère tout à la maison.
Oui, celle et pas celui, c'est souvent les femmes.
C'est souvent celle.
Et je crois, Mélanie, pour essayer de vous intéresser sur le sujet, que vraiment, c'est le cœur, c'est la charge mentale. C'est-à-dire qu'on s'organise, on passe du temps à ça, mais au final, on est allégé. Et nous, les femmes, on prend moins en charge aussi tout ce qu'on doit avoir sur les épaules d'habitude.
Oh, je me sens submergée, là. Il y a une jumelle cachée de vous, Julia, sur Insta. Hélène qui dit « Je dois être la jumelle cachée de Julia. L'organisation et le rangement, c'est la vie. » Mais c'est incroyable. Oui. Il y a vraiment beaucoup de gens, effectivement, qui sont comme vous, finalement.
Et puis, c'est un moyen de déléguer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. Plus les gens autour de vous sont organisés, peut-être parce que vous leur avez montré comment l'être, et plus c'est à eux de réfléchir et moins à vous. Et donc, plus vous pouvez être disponible et spontané.
Alors depuis quelques années, c'est presque devenu à la mode hein, d'être ordonné, organisé. Quand on voit le succès d'une Marie Kondo, par exemple, eh bien, on est en ligne avec l'instagrammeuse Emmanuelle du compte Simplement M. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, je crois que votre credo, c'est d'aider les autres avec des conseils pratiques au quotidien pour s'organiser et se simplifier la vie. Pourquoi vous avez choisi de faire ça sur les réseaux sociaux? C'est une bonne plateforme qui s'y prête bien?
Alors oui, tout à fait. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, ça permet de toucher des gens de tous horizons, de tous les milieux. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas se tourner vers un livre ou qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre les services d'un coach ou de participer à une conférence et ils peuvent accéder à du contenu gratuit. Et moi, avec mon site Simplement M, c'est E-M-M, comme mon prénom Emmanuel, je propose un programme qui est complètement gratuit et qui va permettre d'organiser sa maison et puis son quotidien pour vraiment se simplifier.
Alors justement, je suis sur Instagram en train de commencer à vous suivre. Emmanuel, forcément je m'abonne illico, mais votre intérieur est toujours bien rangé, tout est blanc, minimaliste. Ce côté esthétique, je ne sais pas pourquoi ça vous plaît, ça vous apaise? C'est quoi le projet derrière tout ça?
Alors effectivement, mon feed est assez épuré, parce que c'est ce qui porte le mieux le propos, mais il ne faut pas croire que je vis dans une maison témoin, tout n'est pas blanc et tout n'est pas tout le temps rangé, parce que c'est une maison qui vit, j'ai deux enfants, mais effectivement, c'est quand même, ça reste assez épuré, parce que moi, ça me plaît visuellement, et comme le disait Laurence, ça permet vraiment un apaisement au quotidien, ça me permet de mieux me concentrer, et aussi de mieux me détendre, sans une pollution visuelle qui m'appellerait en continu, qui m'enverrait des signaux, en fait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu penses à ça, hop, voilà, il y aurait tout ça en tête. Et aussi, ça allège aussi la charge mentale, puisqu'on a moins de maintenance à faire pour la maison, moins de rangement, moins de temps pour nettoyer.
Et justement, Emmanuel, vous venez de le dire, hein, vous êtes une maman, alors toutes ces choses, ces habitudes, je crois que vous les faites en famille, avec le papa et même les enfants. Ça aussi, le fait d'être collaboratif quelque part dans l'orga, ça allège la charge mentale?
Ah bien sûr, pour moi la famille c'est vraiment une équipe en fait. La charge mentale elle doit être partagée. Et par exemple nous le soir on a un petit rituel du soir et en fait pour le faire on a d'abord réfléchi à toutes les tâches qu'on doit faire après le repas. J'ai tout listé et puis après en fonction des capacités de chacun et puis des préférences aussi, on va se répartir les tâches. Et les enfants même jeunes ils peuvent faire certaines choses comme préparer leurs affaires pour le lendemain matin, leur goûter, aider à débarrasser la table. Et ça va en plus stimuler leur autonomie. Et puis, ça va leur montrer aussi, leur inculquer le fait que l'intendance du quotidien, ce n'est pas que l'apanage des femmes. Tout le monde doit faire sa part.
Exactement. C'est un message aussi de libération que vous nous donnez. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Je rappelle votre Instagram, @simplement-e2m. Alors, Laurence Enfalt, vous avez consacré un autre de vos livres aux enfants et à l'organisation. J'aide mon enfant à s'organiser. Eh bien, l'organisation, est-ce que ce ne serait pas le secret de la paix des familles? Et cela dès le plus jeune âge.
Oui, oui, tout à fait. Avec ma co-auteure Stéphanie Bujon, on s'est demandé comment faire pour ne pas faire de nos enfants des tanguis.
Oui.
Donc, quand ils vont partir de chez nous, qu'est-ce qu'ils sont censés savoir faire? Et on s'est dit, oh là là, mais on a entre 3 ans et 18 ans pour leur apprendre tout ce qui fera d'eux des adultes responsables et autonomes.
Et on commence à quel âge avec eux?
Eh bien, quand ils rentrent à l'école, au moment où ils commencent à ranger, vous voyez bien comment c'est, à la petite section, ils rangent, et bien voilà.
Oui, mais ils dérangent plus vite qu'ils rangent, moi j'ai l'impression.
Ah, ils aiment bien les deux. Ouais, quand on est petit, on n'a pas cette notion de corvée que nous, on a.
On peut en faire un jeu. On peut en faire un jeu,
exactement. Exactement, c'est l'idée.
Eh bien, c'est compris, merci, vous restez avec nous. Hein. On n'en a pas fini avec notre sujet ce matin. Comment devenir des pros de l'organisation, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Et justement, on va passer aux solutions que l'on peut appliquer au bureau aussi, hein, jusque dans votre boîte mail. Car là encore, on peut facilement s'alléger en appliquant quelques astuces. Alors, pour en savoir plus, une seule chose à faire pour le moment, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Faut-il être organisé pour être heureux? On en parle avec vous, Laurence Infalt. Je rappelle que vous êtes psychologue et coach en organisation personnelle avec votre agence Jara. Et pour tous ceux qui disent souvent justement qu'ils n'ont jamais le temps de rien faire. Il n'y a que 24 heures dans une vie. Vous avez une astuce imparable. Vous dites qu'il faut se mettre dans la peau d'une bergère avec ses moutons. Alors là, va vraiment falloir nous expliquer. J'arrive pas à imaginer Julien en bergère, mais racontez-nous ça.
Alors, vous allez imaginer que vous êtes une bergère et que tout ce que vous avez à faire, en fait, ce sont des moutons. Donc, vous avez des papiers à gérer, chacun d'entre eux est un mouton. Vos enfants sont des moutons. Une demande de votre chef, c'est un mouton. Donc imaginez ça comme ça. Donc les moutons vous tombent dessus n'importe quand. Tout le monde sait que le mouton, c'est pas très futé. Je parle pas de vos enfants.
Et on compte pas les moutons, on est d'accord.
Et non. On ne les compte pas sous peine de s'endormir. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire bon ok, il y a un mouton qui bêle. Qu'est-ce qu'il veut ce mouton? Est-ce qu'il faut que je le tonde? Est-ce qu'il a besoin d'un vaccin? Est-ce qu'il faut que je le soigne? Donc il faut identifier ce dont il a besoin. Et on trouve tout de suite, en se posant la question, si je m'y mettais maintenant à m'occuper de ce mouton, qu'est-ce que je ferais? Par quoi je commencerais? Et on décide, est-ce que ce truc par lequel je commencerais, est-ce que je veux le faire tout de suite ou pas? Mm-hmm. Et si c'est ou pas, alors je vais devoir l'écrire, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse plus tard.
Pour ne pas l'oublier, notamment.
Et pour ne pas l'oublier.
On a Nathalie sur Instagram qui semble avoir un mouton un peu noir, je plaisante bien sûr, mais elle dit « Je pense être relativement organisée, mais comment faire avec une ado qui n'en a rien à faire? Comment lui faire comprendre ?» Comment on le dresse, le mouton, alors?
Comment Alors, est-ce que son ado veut être organisé ou
non,
elle
apparemment,
veut,
c'est
elle
une ado qui n'est pas du tout organisée, qui n'écoute pas les règles d'organisation de sa maman. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas.
D'accord, il faut proposer à l'ado quelles sont les règles qu'elle serait OK pour mettre en place. Peut-être pas celle de maman, certainement pas celle de maman. Mais on doit pouvoir se mettre d'accord sur un compromis.
Donc, on ne l'oblige pas à sortir de la prairie, on le garde
non,
quand
non,
même.
On garde son enclos. Mouton.
Mais d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de ces tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire tout de suite et qu'il faut noter. Mais dans quel ordre on procède justement pour traiter les tâches concrètement? On commence par les urgences ou les priorités? Parce que je crois que ce n'est pas la même chose.
Oui, il y a une différence. Pour moi, une urgence, c'est quelque chose qui vous oblige à arrêter ce que vous êtes en train de faire pour vous en occuper jusqu'au bout. Votre gamin tombe, se blesse, vous arrêtez votre passage, et évidemment, vous occupez de lui. Ça, pour moi, c'est une urgence. Tout le reste, c'est juste des trucs qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire, qui sont importantes.
Des priorités.
Ça, à partir du moment où c'est écrit quelque part et que vous regarder régulièrement l'endroit où c'est écrit.
Les massages, c'est quoi? Ce sont des urgences ou des priorités dans votre agenda, Julia?
Eh bien, des massages, c'est du plaisir et c'est des choses que j'organise. J'ai
des priorités, mais pas des urgences.
Oh, c'est pas des priorités, c'est
ça pourrait sauter si besoin était.
Ça peut sauter, alors que le repassage et le gamin, évidemment que non. C'est hyper intéressant ce que vous racontez. Voilà, je voulais vous le dire, ça me passionne.
Merci. On a une question pour vous, Laurence de Naël. On va l'écouter tout de suite.
Salut Mélanie et Julia. Alors moi à la maison, je suis super organisée, mais au travail, c'est pas du tout le cas. Alors si vous avez des petits conseils pour moi, je suis vraiment preneuse. Merci beaucoup.
C'est possible d'être très organisée chez soi et pas du tout au travail? C'est pas bizarre d'être ambivalent comme ça?
Alors non, c'est même très fréquent. Mais c'est plutôt dans l'autre sens la plupart du temps. Hyper carré au travail parce qu'on n'a pas le choix et qu'il y a des dates limites à respecter. Et très décontracté à la maison parce qu'on n'aime pas les contraintes.
Alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour que ce soit un peu moitié-moitié, quoi?
Enfin, elle peut faire le coup des moutons ou pas au bureau?
Ah bah non, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Elle a un certain nombre de moutons qui lui tombent dessus.
Par mail,
votre auditrice.
Par mail, souvent.
Par mail, en l'occurrence.
Comment on gère la boîte mail?
Exactement la même chose. Pour chaque mail, on se demande, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, oui ou non? Si la réponse est oui, ben c'est quoi le quelque chose en question? Est-ce que je veux le faire tout de suite ou est-ce que ça peut attendre un peu? Si ça peut attendre un peu, je l'écris.
Et c'est quoi cette histoire de bip réel et imaginaire? De quoi vous voulez parler en fait? On met notre téléphone en silencieux, c'est ça?
Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes interrompu dans quelque chose que vous faites, vous perdez en moyenne 2 à 3 minutes pour revenir à l'état de concentration que vous aviez précédemment. Donc on a tout intérêt à faire en sorte d'avoir le moins d'interruptions possible pour travailler de façon concentrée.
Un bip imaginaire, ça serait quoi alors?
Alors
par
un bip imaginaire, ce serait, vous êtes là en train de travailler ou de faire quelque chose et vous dites oh, j'ai envie d'une tarte au citron meringuée. Et puis ça commence à tourner parce qu'en réalité, vous avez faim. Donc l'idée, c'est avant de se mettre à travailler sur une tâche qui va demander de la concentration, on vérifie d'abord que tout va bien côté physiologique. J'ai pas soif, j'ai pas envie d'aller faire pipi, j'ai pas faim. Ça va éviter les bips imaginaires.
C'est comme pour les bébés en fait. Il faut écouter d'abord nos besoins essentiels et
bien sûr,
et vitaux, on va dire.
Et après, on y voit plus clair.
Oui, d'accord.
C'est ça.
Et pour les gens comme Mélanie qui font un peu de procrastination de temps en temps.
Pas trop. Non, ça va. Je suis pas très organisée, mais quand j'ai quelque chose à faire, je le fais vite, comme ça, c'est fait.
C'est une bonne méthode.
Donc je ne procrastine pas trop, je crois.
Mais pour ceux qui remettent à plus tard ce qu'ils auraient pu faire le jour même, vous avez quel genre de choses à leur dire pour améliorer ça?
Alors, oubliez le coup de pied aux fesses. La plupart des procrastinateurs que je connais sont persuadés qu'ils ne fonctionnent qu'au dernier moment sous la pression à grands coups de pied aux fesses. C'est faux. Il faut se prendre de l'autre côté. En fait, il faut tout le temps se prendre par la douceur en se disant « qu'est-ce que je pourrais au moins faire ?» Au moins faire. Le truc le plus petit, le plus court, qui ne mettrait pas ma journée en l'air. Et ça, c'est une technique qu'on peut utiliser pour l'ado de votre auditrice tout à l'heure. Qu'est-ce que tu es OK pour faire au moins.
À minima.
À minima.
C'est quoi le secret, on va dire, d'une journée sereine et bien organisée pour vous? En fait, je crois que ça se joue la veille. Enfin, j'ai lu ça dans votre livre. En gros, il faudrait penser à quoi, par exemple, la veille de cette journée très sereine et très organisée?
Déjà, on commencerait par regarder la météo. Ça nous éviterait de nous promener en tongs quand il fait 10 degrés le matin, ce qui nous arrive en ce moment.
Ou de mettre 4 heures à choisir la tenue qu'on va mettre ce matin-là, justement.
Parce que prendre des décisions le matin, la tête dans le seau, c'est pas simple. Donc, on commencerait comme ça. Et puis, on va regarder, grâce à notre fameux planning partagé, on va regarder ce qui est prévu pour tous les autres membres de la famille dont on est en charge. Et on les aide donc la veille à préparer tout ce dont ils auront besoin le matin pour que les départs le matin soient sereins. Parce que c'est une catastrophe dans la plupart des familles.
Exactement. Et rappeler être des alertes pour nos enfants, par exemple, avant qu'ils ne soient pour eux-mêmes. D'ailleurs, vous parliez du matin. Qu'est-ce que vous pensez du fameux Miracle Morning? C'est-à-dire, en gros, se lever à 5h du matin pour avoir plus de temps pour soi et être plus productif.
Alors, j'aime l'idée d'avoir plus de temps pour soi et je trouve que le matin, ce n'est pas une mauvaise idée du tout, mais ça dépend des gens. Parce que si vous pouvez vous lever à 5h du matin, ça veut dire que vous vous couchez à 21h la veille, plus ou moins. Sinon, vous n'assurez pas vos journées. Et du coup, votre vie de famille, elle devient quoi? Parce que quand même, une fois qu'on a couché les enfants, vous voyez ce que je veux dire?
Vous n'aimez pas ça, vous, hein? Vous ne le faites pas, vous?
Alors, moi, je suis du matin, mais pas à ce point-là.
Ouais. Pas 5 heures, quoi.
Ah, pas 5 heures.
Mais en même temps, quand vous vous levez à 5 heures du matin, vous faites plein de trucs, vous imaginez?
Vous levez à quelle heure?
Moi, je me lève à 3h30, mais je vais bosser direct. Mais en d'autres temps, quand je pratiquais le Miracle Morning, ça pourrait faire l'objet d'une émission, Mélanie, entre 5h et 7h du matin, la maison est calme. Ouais. C'est l'occasion aussi de faire des trucs hyper chiants. Non?
Oui, ça peut être l'occasion de faire des trucs hyper chiants. Je connais très peu de gens qui se lèvent en se disant « Oh, chouette, je vais me faire mes petits trucs hyper chiants le matin !» Mais c'est pas Mélanie.
Non, jamais je ferais ça. Moi, je me lève un quart d'heure plus tôt que tout le monde, déjà pour prendre mon café seul, en fait.
Oui, c'est ça. Mais c'est déjà génial, non? Voilà. Ce café toute seule, il est
génial. C'est le meilleur de la journée,
c'est
en général.
Ça, ouais, je suis d'accord.
C'est vrai. Bon, on a bien compris qu'être organisé, c'est vraiment l'idéal quand même, pour que tout aille bien. Mais parfois, ça peut quand même virer à l'obsession. Ah bon, on veut tout contrôler tout le temps. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que je dois m'inquiéter pour ma copine Julia Vignali?
Tant qu'elle trouve le temps pour se faire masser, on ne s'inquiète pas pour Julia.
Non, elle a l'air d'aller bien.
Et est-ce qu'on s'inquiète
pour votre mari, peut-être?
J'organise tout pour tout le monde, effectivement.
Alors, on s'inquiète? Il faut que tout le monde soit d'accord, parce qu'il arrive des fois où les partenaires se rebellent un peu contre la surorganisation.
Comment on dose cette surorganisation avec une part d'imprévu quand même? Dans quoi il est indispensable, peut-être selon vous, de garder justement un peu de spontanéité quand même? C'est important.
Mais j'ai tendance à penser que le fait d'être organisé, ça permet justement d'accueillir l'imprévu sans stresser.
Julia, je vais vous applaudir, pour ceux qui ne le voient pas,
Julia,
sur Europe 1.fr.
Mais bien sûr, c'est parce qu'on est organisé que quand un imprévu arrive, on peut de nouveau l'organiser.
Ouais, et qu'il n'y a pas de problème. Ça ne met pas en l'air toute la journée, toute la semaine et toute la famille juste parce qu'il y a eu un imprévu.
Et je dirais même que c'est marrant. Quand il y a un imprévu, on peut bouger les cases de son emploi du temps. Ça me fait beaucoup.
Ça vous amuse, vous, de changer
j'adore.
Les boîtes et les trucs.
J'adore.
Ouais. Jouer au Tetris avec son emploi du temps, c'est ça?
Oui, exactement. Bon, merci beaucoup, Laurence, d'avoir accepté notre invitation. Mais pourquoi?
Ça me fait peur un peu quand je vous entends parler comme ça, les robots.
Elle vient de découvrir Mélanie Gomez. Vous en faites pas, j'organiserai votre emploi du temps.
Tout va gentil, bien.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Laurence. Et pour ceux qui voudraient encore davantage de conseils et d'astuces pour se désencombrer, je rappelle votre livre Se simplifier la vie, paru chez Erol.
Voilà, qu'elle vient déjà de glisser dans son sac. Merci encore, Julia. Maintenant, on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique de Vincent Busset, notre spécialiste déco. Il va nous présenter les nouveautés dans le secteur de la bougie. De quoi créer des ambiances feutrées chez vous. Et puis, il y aura aussi Anouk Garnier, notre coach sportive, qui va nous parler d'électrostimulation, c'est-à-dire la muscu par impulsion électrique. C'est de plus en plus à la mode. Ça se fait même dans les salles de sport et on va tout vous expliquer sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Eh bien, vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins, de 11h à midi et en direct. Et c'est notre partie consacrée aux tendances qui va démarrer à présent. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Anouk Garnier, bonjour.
Bonjour.
Ça fait transpirer le truc que vous avez sous votre t-shirt, là, l'électrostimulation.
Elle est déjà équipée, ah ouais.
Ça fait transpirer.
Alors, ça fait transpirer,
vous avez pas l'air,
vraiment, pas vraiment pour le moment, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
d'accord, Julia.
Pendant ce temps, elle se muscle, allez-y.
Je muscle mes abdos en attendant. On revient vers vous dans quelques minutes, Anouk. Mais pour commencer, c'est Vincent Busset qui va mettre le feu à l'antenne. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Je dis le feu parce qu'il y a du nouveau dans nos intérieurs avec des bougies de tendance, alors qu'ils n'ont plus rien à voir avec les chandeliers de mémé. Hein.
Oui, puis on va voir les bougies, les parfums et les diffuseurs parce que c'est une offre très complète en ce moment. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà quelqu'un qui en a parlé avant moi. Donc on va l'écouter tout de suite.
Toutes les bougies, c'est génial. Il y a des bougies partout avec des senteurs très 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 sophistiquées. De plus en plus, l'autre jour, j'étais dans un magasin à Paris et j'ai vu une bougie. Et la senteur, c'était lundi matin en Alaska.
Voilà, effectivement, j'ai pas trouvé lundi matin en Alaska. Je vous ai quand même ramené des très très beaux produits.
C'était Gad Elmaleh, hein, qu'on entend bien entendre,
inutile
évidemment.
De préciser, tout le monde l'a reconnu. Alors, ce que j'aime bien dans les parfums pour l'intérieur, c'est que c'est vraiment la folie raisonnable par excellence. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les macarons Pierre Hermé ou les glaces Bertillon. On peut y aller parce que ça reste quand même quelque chose de modeste au niveau du budget. On peut se faire plaisir, même si on le paye trop cher, c'est quand même super bon. Donc je vous ai ramené pas mal de petites choses. On va commencer par les bougies parfumées, parce que les bougies, c'est vraiment le produit de base quand on parle de parfum en intérieur. Alors, quelques petites précisions quand même sur les bougies. La contrainte, c'est qu'on a quand même du feu. Donc, quand on a des enfants, faire quand même un petit peu attention. Et puis, une fois que c'est totalement fini, on est obligé d'en racheter une nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même choisir le moment où on a envie de parfum avec une bougie. C'est-à-dire que quand on ne l'allume pas, elle ne diffuse pas de parfum et on est tranquille.
Ça
parce
peut être
que...
un objet de déco
oui,
tout
oui,
seul.
Oui,
hein,
c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai ramené ces produits-là, parce qu'il y a le mélange d'un parfum subtil et agréable et en même temps un bel objet. Alors, justement, pour les bougies parfumées, on évite absolument les bougies premier prix IKEA avec les couleurs fluo, avec les parfums d'une subtilité relative, goût noix de coco, vanille. Vous savez, ces bougies qui font mal à la tête.
Ça
même
prend
quand
à la gorge.
Ouais,
peu,
même quand
hein,
elles sont pas allumées, on a déjà
chimique,
mal à la tête.
Hein, franchement.
Ouais, ouais. Alors justement, petit disclaimer, comme on dit, par rapport à la santé, c'est une émission où on parle quand même de bien-être et de santé. Les bougies, évitez peut-être de les utiliser trop souvent. Pensez à bien aérer votre
surtout
intérieur.
Surtout si vous avez des maladies respiratoires.
Tout
attention à
fait.
Vous, n'utilisez jamais ce genre de produits-là. Vous les allumez pas, vous les gardez comme des objets déco pour ces gens-là.
Alors, à titre personnel, je vais raconter un petit peu ma vie, mais j'ai des problèmes au niveau respiratoire. Je suis un petit peu asthmatique et tout ça. J'utilise quand même des bougies parfumées et tout se passe très bien.
Oui, mais c'est juste que vous ouvrez vos fenêtres
voilà,
régulièrement.
Il faut les utiliser
c'est
de manière raisonnable et typiquement, je vais pas la mettre dans ma chambre à coucher.
Exactement.
Avant d'aller me coucher. Voilà. Je referme cette parenthèse là, mais c'est un petit plaisir qu'on s'autorise un petit peu comme de l'alcool ou du sucre. On sait que c'est pas très bon, mais on va
avec
pas s'interdire
modération.
De vivre non plus. Voilà.
Et alors, vous avez retenu des marques
oui,
un peu
alors,
tendance.
On va commencer par Diptyque que tout le monde connaît quasiment. Donc la senteur figuier qu'on ne présente plus, qu'on a tous déjà senti. Alors, Diptyque, j'ai deux modèles que je trouve intéressants. Donc, c'est celui-là que je peux vous donner et celui-là.
Donc là, c'est rouge.
Alors là, ce n'est pas des modèles classiques. Alors, ça fait partie de ma collection préférée. C'est les collections Ville du Monde. Donc, on a Paris, on a Shanghai, je crois, Julia, pour vous.
Vous regardez tout ça Shanghai. Sur notre compte Instagram. On est en train de faire une vidéo en même temps ou sur Europe1.fr. Hein, vous voyez les objets.
Vous avez quelle destination, Mélanie ?
C'est Paris, c'est la classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dizaine de bougies qui sont. On ne peut les trouver que dans les villes dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire que la bougie Berlin, on ne peut la trouver qu'à Berlin. À Shanghai, qu'à Shanghai, sauf une fois par an, et ça tombe bien, c'est en ce moment où on peut les acheter pendant 15 jours dans toutes les boutiques Diptyque, mais sinon c'est vraiment Berlin, on la trouvera qu'à Berlin.
Alors c'est collector en quelque sorte.
Un petit peu, et ce qui est intéressant, c'est que la décoration de la bougie et le parfum est censé s'inspirer de la ville dans laquelle on se trouve. Donc ça, ça peut être une bonne idée de cadeau quand on rentre de vacances par exemple.
À Shanghai, je sais pas ce que
ça. Je suis jamais allé à Shanghai, donc je peux pas vous dire.
Non, mais Paris,
mais
en Paris, cas,
c'est censé
s'inspirer. En tout cas, je dis ça sent bon à Shanghai, mais je sais pas ce que ça sent.
Ça sent bon à Paris.
Ça sent bon à Paris. Ça coûte combien cette petite bougie Ville du Monde?
C'est une soixantaine d'euros. D'accord. Donc ça reste raisonnable. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est vraiment un plaisir raisonnable.
Même les collectionner en voyageant, pour ceux qui ont la chance de voyager.
Tout à fait, ça fait un beau cadeau, je crois.
Autre chose.
Oui, alors on a Trudon, qui est une marque française. Alors, non, alors c'est la petite bougie qui est
alors,
là.
Voilà.
Là, c'est vraiment la marque traditionnelle par excellence. Elle a été fondée en 1643, qui figurez-vous, par Claude Trudon, qui était rue Saint-Honoré à Paris. Ça fournissait le. Alors comment ça s'appelle? C'était l'équipe impériale de Napoléon. Ça a également reçu une médaille d'or en 1889 à l'exposition universelle, la même année que la Tour Eiffel, pour la qualité des cires.
Oh,
et
j'adore.
Alors, c'est
odeur,
le modèle cire.
Je me demandais ce que ça sentait.
C'est le modèle cire de chez eux. Et ce qui est intéressant chez Trudon, c'est qu'on a vraiment un mélange de marques très traditionnelles avec tout ce que ça comporte d'artisanat. Donc ça, c'est très agréable. Et en même temps, comme ça a été racheté par le groupe LVMH en 2021, il y a quelque chose de plus moderne qui s'installe. Et du coup, on a des nouveaux produits qui arrivent, des bougies parfumées qui existent seulement depuis 2007 et puis les diffuseurs dont on parlera dans quelques instants. Et alors, dédicace, oui, pour vous, Julia.
Mais c'est quoi cette bougie avec le visage très joli? Ça me rappelle une marque,
oui,
connue. Visage,
c'est
un Fornacetti, qui l'entoure. Hein.
Fornacetti, qui est un artiste à la base qui s'appelait Piero Fornacetti. C'était un sculpteur, un décorateur, un peintre, vraiment un touche-à-tout, qui est très connu pour avoir détourné de manière humoristique le visage de Lisa Cavalieri, ou Rowe, je ne sais plus, qui était une chanteuse d'opéra très connue et surtout très belle. Et du coup, on la retrouve très souvent de manière détournée. On va la voir faire un clin d'œil, on va la voir tirer la langue.
Elle
on l'a retrouvée sur des assiettes, notamment.
Des papiers peints.
Exactement, des papiers peints. Ils ont décliné depuis une gamme de bougies. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien évidemment un objet de décoration, mais c'est quand même une bougie de très bonne qualité parce que c'est fait par un maître syrien.
Et elle peut être de bonne qualité, elle vaut 250
oui,
euros.
Oui, mais encore une fois, pour moi, c'est avant tout un objet de décoration. Et ce qui est bien, c'est que quand la bougie est terminée, on n'est pas obligé d'en acheter une neuve, on peut acheter une recharge simplement. Donc
exactement.
Il coûte 80 euros.
Et on garde ce bel objet.
Exactement.
Et on oublie l'encens. Hein.
Moi, j'ai un avis très tranché sur l'encens.
Ben, ça pue, hein.
Bah, hop, ça fait de la fumée. Alors, je ne vais pas faire que des amis. Alors, on m'a expliqué quand même, parce que je me suis cultivé un petit peu sur le sujet des encens, c'est qu'il faut le faire avec la fenêtre ouverte pour que la fumée s'en aille. Et une fois que c'est terminé, on referme, comme ça on a un parfum qui est beaucoup plus délicat et on n'a pas cette problématique de fumée.
Bon, bah très bien. Merci beaucoup Vincent pour cette chronique scintillante. Avec vous, on était éclairé à la bougie, mais maintenant on va passer à l'électricité avec Anouk Garnier. Anouk, l'électrostimulation, c'est super en vogue, hein, je crois.
Oui, alors ça fait plusieurs années là que on voit beaucoup de combinaisons là, électrostimulation, et puis bah on vous vend encore une méthode pour avoir des résultats un petit peu en claquant des doigts.
On a bien l'effet magique. Hein,
en 20 minutes, vous faites 4 heures de sport.
Mais alors justement, maintenant que je vous tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'on peut perdre du poids et se sculpter avec ces méthodes, avec ces combis-là?
Alors, d'abord, je vais vous parler vraiment de la combi corps entier. Mmh. Alors, j'ai été chercher plein d'études, etc., scientifiques. Je suis très scientifique, j'aime bien. Il y a eu des études sur des sportifs aussi pour voir si ça améliorait les performances. Ben, je vais vous décevoir quand même. Les résultats n'étaient vraiment pas significatifs.
Oh, ouais.
Il y avait très peu de résultats. Et s'il y avait des résultats, ils étaient couplés avec des squats, encore des squats, avec une charge. Donc finalement, on ne savait pas si c'était les squats ou l'électrostimulation qui produisait les résultats.
Mais vous ne croyez pas quand même que de faire des squats électrostimulés, ça décuple le truc?
Alors, franchement...
Ça fait un super squat,
pas... Oui, ça fait un super, super squat. Mais en fait, il n'y a pas assez d'études sur le sujet, parce qu'il n'y a pas assez de recul. C'est tellement nouveau qu'on ne sait pas si c'est juste le squat en lui-même ou la totale qui fait le truc.
Mais voilà. Les gens, ils ont des résultats. Ça a l'air de bien marcher pourtant.
Alors, souvent, le truc, c'est que ça attire des gens qui sont sédentaires,
ah,
donc
oui,
qui ne font pas d'activité sportive. Donc, d'un coup, hop,
on passe de patate sur le canapé à rien faire.
Et ben voilà, c'est ça.
On
passe de rien à une petite stimulation électrique. Du coup, ça apporte quelques résultats tout de suite, quoi.
Mais est-ce qu'au moins, on peut dire que ça fait maigrir, c'est vrai?
Alors, pas réellement. C'est pas cette méthode-là qui fait maigrir. Comme vous le disiez, ça fait des exercices. Mmh. Donc, en fait, comme on fait des exercices, mais qui ne sont pas à amplitude complète, déjà, on ne brûle pas toutes les calories possibles. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de l'amplitude complète. Mmh. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a des exercices parfois couplé, parfois cardio, sur un vélo, etc. Mais on ne sait pas si c'est juste faire du vélo ou juste faire de la haute intensité avec la combi qui fait le résultat.
Bon, moi, je n'ai jamais testé l'électrosimulation, mais je connais des gens qui l'ont fait, qui m'ont dit quand même qu'ils avaient des courbatures après.
Moi, j'en ai.
Ça veut bien dire qu'on travaille quelque chose.
Alors,
quand même.
Il y a d'énormes courbatures après parce qu'il y a une stimulation
là,
électrique.
À la fin de la chronique, vu que vous êtes appareillé depuis déjà un petit moment, vous allez avoir mal, vous croyez?
Pas juste après, peut-être demain. Le problème sur ces grosses, en fait, sur les machines, c'est que vous avez des stimulations sur beaucoup de chaînes musculaires et vous allez avoir beaucoup de courbatures, forcément. Et il y a une grosse, grosse intensité électrique. Et justement, attention, petit danger quand même, parce que si vous avez, si vous avez des grosses courbatures, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'acidité dans les muscles. Et ça peut être dangereux. D'avoir autant de zones stimulées en même temps, ça peut être dangereux.
Pas,
donc il faut faire attention. Et souvent, ce n'est pas encadré par vraiment des professionnels, etc. Donc il faut quand même vraiment faire attention à ce que ça soit adapté à votre niveau.
Donc ça veut dire que vous ne conseillez pas l'électrostimulation?
Alors, je ne dis pas que je ne la conseille pas. Je dis que je la conseille en complément.
D'accord.
Éventuellement en complément. Ça ne peut pas remplacer une activité sportive. Ça ne peut pas remplacer des mouvements amplitude complète, des mouvements cardio, etc. Et après... quelqu'un qui ne peut pas bouger, par exemple quelqu'un qui a un handicap, pourquoi pas, au moins ça permet quand même d'avoir du renforcement là-dessus. Voilà.
Quel est l'appareil que vous portez, vous?
Alors, moi, c'est un appareil qui est plutôt ciblé, vous voyez.
C'est que les abdos.
Là, je l'ai mis sur mes abdos, mais je peux le mettre...
Romain Desarts,
je peux le mettre.
Aïe, ça a l'air faire mal, ce truc.
Oui, je regarde.
Non, ça va, ça travaille bien.
Mais c'est fou, parce que moi, je vous ai en face de moi, Anouk, et je vois votre ventre. Bon, déjà, bravo, parce que vous avez des abdos, c'est pas forcément facile de les trouver pour tout le monde. Et franchement, je vois vos muscles se contracter.
Depuis tout à l'heure, je suis comme ça, j'ai des petits moments comme
et
ça.
Alors, ça fait mal ou
non,
pas?
Non, alors parce que justement, donc là, c'est un appareil en fait qui est mini. Alors ils l'ont appelé le Compex Mini.
Connecté à votre
voilà, c'est connecté hein. à mon téléphone et je peux vraiment régler l'intensité en fonction de mes sensations.
Faut pas que ça se dérègle.
Non. Faut pas que ça se dérègle. Il faut pas le donner à quelqu'un en qui vous n'avez
pas
confiance.
Confier son iPhone à quelqu'un. Voilà,
vous êtes à combien là à peu près?
Je suis à pas grand chose. Hein, là, j'ai vraiment fait une stimulation qui est légère.
Vous pouvez appuyer un peu plus fort que je vois ce que ça.
Non, Julia.
Faire une petite séance de torture, Julia.
Et là, d'un coup, je vais faire ah. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque qui a cette technologie depuis 1986. Donc, c'est vraiment, il y a un gros recul là-dessus. Et comme vous le voyez, c'est ciblé. Je ne vais pas pouvoir faire tout mon corps en même temps. Je vais pouvoir faire que quelques zones. Du coup, vous n'avez pas l'effet mauvais entre guillemets de cette stimulation électrique.
Voilà, on peut cibler quelles zones avec ce genre d'appareil?
Vous pouvez cibler les cuisses, vous pouvez cibler les fessiers. Je sais que
les
vous
bras,
aimez bien
les ailes de chauve-souris, ça marche.
Vous pouvez aussi.
Non, après, je connais pas, mais j'en ai entendu parler.
Justement, en fait, ils ont aussi une technologie qui vous permet. Moi, j'ai un appareil un peu plus qui va un petit peu plus loin parce que je suis athlète. Ce qui est bien aussi, parce qu'ils ont des appareils pour tous les types de niveaux, pour les débutants ou pour les athlètes confirmés. Et il y a des programmes de récupération, il y a des programmes anti-douleur. Moi, je fais beaucoup de récupération avec cet appareil, mais il va stimuler mon muscle et il va mettre l'intensité idéale pour mon muscle. Donc
vous
c'est
avez
pas
vu
mal en termes de technologie.
Moi, je suis athlète, en regardant un peu de haut. Là.
Ouais, je vous prends de haut, de haut.
Moi aussi, je suis une athlète, à ma façon.
Vous êtes athlète.
Au Main des Arbres, vous êtes un athlète, vous aussi ou... Un moins peu de sport, que... quand même.
Est-ce que vous vous électrostimulez
J'ai déjà essayé.
Et alors
ouais. J'ai déjà essayé. Oui, effectivement, ça, en vrai, ça remplace pas le
ouais,
sport,
c'est
mais
ça.
c'est un petit plus. Il ouais. Y a pas l'effet, on n'est pas délassé. Voilà.
Ouais. Après, oui, et puis je pense que
qu'il
y a pas aussi le plaisir de bouger, le plaisir de faire du sport. Je pense que c'est quelque chose qu'au bout de 3 mois, on en a peut-être un petit peu marre.
C'est
difficile, voilà, de fidéliser les gens, mais en complément, je pense que ça peut être intéressant.
Eh bien, merci beaucoup Anouk pour ce focus sportif. On va tester ça bientôt pour se sculpter avant l'été. C'est peut-être la méthode qu'il nous fallait, Mélanie.
Bien, voilà.
J'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Bien fait pour vous, c'est fini. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Eh bien, on va aborder un sujet assez intime et même assez mal vu. On va s'intéresser à l'infidélité. On peut avoir des visions différentes sur le sujet. À partir de quand est-ce réellement trompé? Est-ce que toujours la fin d'une relation quand l'un ou l'autre a dérapé? On détaillera tout ça demain avec nos invités. Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1. Car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel est le programme, Romain?
Alors, on va parler de la bataille des législatives. Elle a commencé. Est-ce que vous voulez une cohabitation? Tiens, je vous pose la question. Vous appelez le 3921. On va en parler. Et puis, on va parler également du prix de l'essence. Ça y est, c'est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a déjà une remise de 15 à 18 centimes décidée par le gouvernement, financée par l'État. Est-ce qu'il faut augmenter cette remise? On en parle également. 3921, vous passez à l'antenne. Ce sera les deux grands thèmes d'Europe Midi. On parlera aussi des retraites.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite. We'll be right back.